du petit déjeuner à l'ultime plaisir du soir, tout le monde le plébiscite et en fait l'un des mets ou ingrédients les plus appréciés par les Français, qui en consomment ni plus ni moins que 7 kg par an et par habitant. Derrière ce petit bonheur sucré nommé chocolat se cachent des milliards de petites histoires croustillantes et surtout une très grande épopée. Celle de la fève de cacao qui, sous sa forme fermentée, torréfiée et broyée, a commencé à être consommée sous des aspects élaborés solides ou liquides dès le XVIe siècle. Quel itinéraire tout de même qui, de l'Amérique centrale, où selon certains archéologues, ces fèves étaient déjà utilisées entre 1400 et 1100 avant Jésus-Christ, à nos tables actuelles pour cet aliment qui a traversé les mers, suscitant au passage toutes les convoitises, toutes les jalousies, toutes les légendes et surtout toutes les passions. Parmi ces dernières, celle de Monsieur Eddie Van Bell, un collectionneur acharné qui a couru les 5 continents à la recherche de trésors destinés à agrémenter son premier musée, ouvert chez lui en Belgique. Une heureuse initiative qui a fait des petits, mais il faut dire que les Aztèques associaient chocolat et fertilité, puisqu'après Bruges, Bruxelles, Paris, Prague, Uxmal, Valladolid et Beyrouth, c'est la ville de Colmar qui se voit gratifiée d'un musée du chocolat. Un établissement qui vient d'ouvrir ses portes 12 places de la cathédrale et où il fait bon flâner à travers des salles d'exposition aussi attrayantes que ludiques. Un concept agréable et passionnant qui vous guide sur les pas de ces petites graines dont on ne peut de prime abord subodorer toutes les richesses qu'elles ont en elles. Pour évoquer avec nous et le musée et le chocolat, Monsieur Daniel Amaria, qui durant quelques minutes dans ce mini-mag n'aura aucun mal, j'en suis sûr, à vous convertir à toutes les vertus et à toutes les saveurs de ce qui sera forcément mis en bonne place sur vos tables de fin d'année. Bienvenue Daniel.
Bonjour David, merci de m'inviter.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours? Est-ce qu'il est lié de longue date à celui du chocolat? Est-ce que c'est une passion qui émane en vous de depuis longtemps? Ou alors est-ce que c'est un fait de circonstances, de hasard qui vous ont amené à aujourd'hui vous occuper du musée du chocolat?
Alors je pense qu'on est déjà tous plus ou moins passionnés par le chocolat, notamment en France. Alors moi en plus, j'ai été passionné depuis tout petit d'histoire, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait vraiment une histoire du chocolat qui était assez méconnue. Alors le produit, tout le monde le connaît, l'histoire beaucoup moins, et donc j'ai eu la chance en 2010 de rencontrer Eddie Van Bell et Fabrice Tinen, directeur du musée de Paris, qui ouvrait donc le musée de Paris, et qui, j'avais vu, avait axé quand même leur collection et leur musée sur l'histoire du chocolat. Moi aimant l'histoire et aimant le chocolat, donc la symbiose était parfaite. Et donc j'ai démarré dans cette circonstance-là au musée du chocolat de Paris en 2010.
Et pour quelle raison Eddie Van Bell a-t-il choisi Colmar pour accueillir son 8e musée consacré au chocolat?
Alors pour plusieurs raisons. D'abord, il est tombé amoureux de la ville. Bon, c'est évident. Il est venu il y a quelques années au marché de Noël. Voilà, la ville lui a beaucoup plu. Il a trouvé une certaine féerie. Puis il a trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de chocolatiers, beaucoup de pâtissiers. Et en regardant un peu plus loin, il s'est rendu compte qu'il y avait une vraie cohérence à installer un musée du chocolat à Colmar. Et en Alsace, hein, parce qu'il y a une histoire liée justement au chocolat avec la région. Et l'occasion s'est présentée lorsqu'on a réussi à trouver un grand bâtiment il y a environ 2 ans, place de la cathédrale. Et c'était l'occasion idéale pour ouvrir le musée place de la cathédrale.
Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette histoire entre Colmar et le chocolat? Quand remonte-t-elle?
Alors plus globalement, ça remonte déjà à l'ère industrielle. Il y a deux facteurs en fait. Il y a d'abord la présence du Rhin, hein, qui a offert une énergie hydraulique aux usines en fait de chocolat, enfin à l'industrie en général, mais plus particulièrement au chocolat en fait. La presse hydraulique pour fabriquer la pâte de cacao a été possible grâce à la pression hydraulique du Rhin. Et deuxième facteur, c'est la présence pas trop loin de l'Alsace des Pays-Bas en fait. Historiquement, les Pays-Bas est le pays qui encore aujourd'hui importe le plus de cacao au monde. et le transport fluvial du Rhin facilitait en fait l'apport rapide et pas trop cher en fait des fèves de cacao. Donc la présence pas loin des Pays-Bas plus l'énergie hydraulique du Rhin faisait que c'était un endroit idéal en fait et propice à la production de chocolat, ce qui explique la présence de nombreux chocolatiers dans la région. Et c'est lié au fait aussi que c'est une région traditionnellement et une ville traditionnellement artisanale. Donc quand on combine la situation géographique avec la possibilité d'avoir une énergie hydraulique et un savoir-faire sur place, bah, tout était fait pour avoir des bons chocolatiers sur place en Alsace et plus particulièrement à Colmar.
Est-ce que c'est le cas également pour les autres musées? Parce que c'est vrai, quand on parle de chocolat et de Bruges, il y a un lien évident, mais par rapport aux autres villes, par exemple Beyrouth, pour ne citer que celle-ci, est-ce qu'il y a à chaque fois un rapport étroit avec le chocolat?
Il y a toujours une raison, hein, effectivement. Bruges, bon, c'est lié évidemment au chocolat, et il y a un axe également sur le chocolat belge. Hein. Historiquement, c'est comme pour Colmar. Hein. Les anciennes provinces unies étaient espagnoles au XVIe siècle, les Espagnols ayant découvert l'Amérique et donc le cacao. Le roi Charles Quint, qui est né à Gand, en Flandre, hein, a fait connaître à sa Flandre natale le chocolat, ce qui explique une cohérence dans le fait qu'il y a une histoire du chocolat en Belgique, actuellement en Belgique maintenant. Donc c'est pour ça que Bruges et Bruxelles ont ouvert là. Uxmal au Mexique, bah, c'est quelque part presque le berceau, en tout cas, de la culture du cacao, hein, le Mexique, même si apparemment les premières traces remonteraient le nord de l'Amérique du Sud, la première trace de culture du cacao, ce serait les Mayas, et ce serait donc du coup dans cette région-là, dans le Yucatan, le Mexique. Après, bah, Beyrouth, c'est aussi pour faire connaître, hein, c'est un produit qui est consommé même là-bas au Proche-Orient, mais qui encore, dont l'histoire est méconnue, donc c'est parce que ça reste quand même un produit consommé beaucoup par les Occidentaux. Et le fait de faire connaître un produit tel que le chocolat à des personnes qui ne connaissent pas encore son histoire, voilà, c'était la raison de l'implantation également à Beyrouth, qui commence en fait, une région qui commence à consommer également du chocolat. Donc c'est important de leur faire connaître l'histoire. Et Paris, bah, c'est un peu dans le sens où c'est un produit qui est très consommé, mais dont l'histoire est méconnue. Voilà. Donc la France étant un des grands pays importateurs et producteurs de cacao, c'est important que sa capitale soit représentée par un musée du chocolat, le nôtre en l'occurrence.
Alors évidemment, il n'est pas possible de parler au nom de Monsieur Eddy Van Bell. Cependant, c'est vrai que, comme je le disais dans l'introduction, tout le monde connaît le chocolat. On a une appréciation en principe plutôt bonne. Cependant, lorsqu'on est collectionneur d'objets liés à ces fèves de cacao et au chocolat de manière générale, vers quelle recherche est-ce qu'on s'étend, puisque c'est un domaine qui est très vaste. Finalement, on peut être collectionneur de chocolat sans forcément apprécier le mets en lui-même.
On peut simplement, lui, il se trouve qu'il a combiné, évidemment je ne parle pas en son nom, mais il a combiné plusieurs choses. C'est qu'il est originaire, comme l'avait dit, de Belgique. Il est passionné de civilisations préhispaniques, hein, les Mayas, les Aztèques. Il est allé également au Pérou sur les traces un peu des Incas, voir s'ils avaient consommé du cacao. Il est allé en Équateur, donc il est passionné plus globalement de l'Amérique latine. Étant belge, ayant une chocolaterie, voilà, le point commun c'était le chocolat qu'il aime collectionner. Le point commun, c'était le chocolat. Donc, il a recherché un petit peu les premières traces, comment surtout comprendre l'évolution, parce qu'on peut effectivement ne pas aimer le chocolat, mais on peut être intéressé par l'histoire d'un produit qui est si présent en fait de nos jours. Comment est-ce que les Indiens consommaient ? Personne ne sait que sur presque 5000 ans d'histoire du chocolat, ça fait que 200 ans que le chocolat est solide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce que c'était que liquide avant ? Donc, le fait, voilà, de s'intéresser à l'histoire, s'intéresse à une région particulière du monde et d'être né dans une région qui est liée également au chocolat fait que, voilà, il s'est très certainement intéressé à l'évolution de son histoire et par le biais de collection qu'il a acquise en plusieurs décennies, voilà, il en est arrivé à vouloir mettre en valeur et surtout partager en fait les connaissances qu'il a acquises et qu'on a acquis au fur et à mesure.
Je le disais, hein, 8 musées ont été ouverts à travers le monde, le dernier en date à Colmar. Quels sont les buts principaux de ces établissements et leur vocation première ?
Alors, c'est faire connaître l'histoire du chocolat, faire connaître le produit. Et là, nous, pour Colmar, on a de nouvelles pièces. On a la plus vieille pièce du musée date de moins 3000. Il y aurait peut-être une consommation en Amérique du Sud, de consommation de cacao, peut-être pour faire une boisson. Mais c'est de faire connaître l'histoire du chocolat. Et nous, ce qui a changé par rapport aux autres musées, on a pris un tournant un peu interactif. Comme c'est une thématique qui plaît à tout public, on a pris un tournant assez interactif pour expliquer l'histoire du chocolat. On rentre dans une salle, un salon à Versailles, à la grande époque. On rentre dans un temple maya. Donc les gens, quelque part, on a voulu, contrairement à d'autres musées un peu traditionnels, on a voulu que les gens participent à leur visite, c'est-à-dire qu'ils participent à l'expérience, qu'ils vivent une expérience. Ils rentrent dans un temple maya, ils voient une légende du dieu Quetzalcoatl, le dieu cacao, devant eux. Ils rentrent dans un salon à Versailles, ils voient Marie-Antoinette, ils voient, voilà. C'est quelque chose d'immersif, avec pas mal d'animation également. Donc le but, c'est de partager, faire comprendre l'histoire du chocolat via des expériences, des animations, via un audio guide qui raconte toute l'histoire également. Et voilà, donc c'est le but principal du musée.
Justement, est-ce que tous ces musées, ces 8 musées, sont semblables ou est-ce qu'ils proposent des aspects différents?
Alors déjà, de par leur répartition géographique, effectivement, il y a des buts qui sont différents. Donc il y a une histoire générale qui évolue quand même, parce que je vous dis, nous, au musée à Paris, on parlait de 4000 ans d'histoire du chocolat. On parle maintenant à Colmar de 5000 ans d'histoire du chocolat avec une pièce qui est un peu plus ancienne. Le musée de Belgique va un peu plus à un moment donné s'orienter sur un aspect chocolat belge à Paris. Puis nous, on met en valeur le chocolat alsacien. Comme je vous l'expliquais, il y a une cohérence à parler de l'histoire du chocolat en Alsace. Et on met en valeur près de 80 artisans alsaciens par le biais de bornes interactives, par le biais d'une carte des routes du chocolat d'Alsace, par le biais d'autres choses, d'un cabaret typique alsacien où on a fait participer des créateurs chocolatiers alsaciens à faire des sculptures. On a mis par exemple une sculpture de 250 kilos de la Statue de la Liberté créée par l'original créé par Bartholdi, qui est né juste à côté du musée. Donc nous, la particularité, c'est que on met également en avant l'histoire du chocolat d'Alsace et les artisans de nos jours aussi, puisqu'on met, comme je dis, en avant 80 chocolatiers alsaciens.
Alors, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce qu'on peut revenir sur l'agencement justement de ce musée situé à Colmar?
Alors, on a d'abord, on commence à parler de la culture du cacao, parce que c'est important de parler de l'origine du produit, donc la fève de cacao qui vient d'un arbre. Donc on évoque la culture du cacao, puis on passe après vraiment à l'histoire. Donc je vais pas trop en dire pour que les personnes puissent voir d'eux-mêmes en quoi ça consiste, mais on évoque les origines préhispaniques de l'histoire du chocolat, donc les Mayas, les Aztèques, qui consommaient une boisson, parce que comme je l'expliquais, à l'origine ce n'était pas une tablette. Donc on rentre dans un univers un petit peu préhispanique. On explique l'arrivée du cacao en Europe, avec l'importation via les Espagnols qui découvrent l'Amérique, qui importent le cacao en Espagne. Puis l'arrivée du chocolat en France, qui se fait via l'arrivée de princesses espagnoles. Donc on évoque Versailles, sa cour, sa boisson aphrodisiaque, qui était le chocolat apparemment. Puis ça, c'est sur un étage, parce que le musée fait quand même 1200 m². On a un autre niveau où on parle du chocolat à l'époque un peu plus contemporaine, avec notamment son industrialisation, donc au 19e siècle. À partir de cette période-là, le chocolat va devenir solide. Donc on a pas mal de machines, on explique comment le chocolat devient solide par un procédé technique et hydraulique du coup, auquel a profité la région d'Alsace grâce au Rhin, comme je vous l'ai évoqué. Et on explique comment est-ce qu'on passe aujourd'hui pour faire notre chocolat solide, comment est-ce qu'on passe de la fève de cacao au chocolat solide avec les différentes étapes. Puis il y a tout un côté aussi nostalgique avec quand on arrive au XXe siècle, toutes les réclames, toutes les publicités des anciennes chocolateries, des anciennes marques de chocolat qui pour certaines encore existent encore. On a même des démonstrations de chocolatiers virtuels, c'est-à-dire qu'on a devant nous des chocolatiers qui expliquent comment faire des bonbons chocolatiers qu'on déguste tout au long du parcours. Évidemment, il y a la dégustation, parce que sinon ce serait pas drôle, donc dégustation à volonté tout au long du parcours, en même temps qu'on découvre l'histoire et l'évolution de l'histoire. Et voilà, on voit comme ça se répartit un petit peu, des origines préhispaniques jusqu'à l'ère industrielle et nos jours, le chocolat, la production du chocolat de nos jours, avec notamment, pour finir, en point d'orgue, les chocolatiers alsaciens qu'on met en valeur et la route des chocolats d'Alsace.
Le terme chocolat est devenu très usuel, notamment aux États-Unis, hein, où il a pu, de manière triviale, allons-nous dire, pu désigner une couleur de peau. C'est ce qu'exprime avec un certain humour l'excellent groupe Carolina Chocolate Drops, que nous allons tout de suite écouter avec Living Eden, avant de retrouver l'Eden colmarien avec Daniel, évidemment.
Hush now, don't you wake up. We'll be leaving at first light. Mama's buying you a mockingbird to lull you through the night. Across the den by morning, here's a blanket for you to share. They're building down in Georgia. Daddy hears he'll find work there. And the mockingbird can't sing like the crying of a dove. And I can't tell my daughters all the things that I'm scared of. But I am not afraid of that bright glory up above. Dying's just another way to leave the ones you. No work for the working man, just one more empty mill. Hard times in Rockingham, hard times harder still. The crows are in the kitchen, the wolves at the door. Our father's land of Eden is paradise no more. And the mockingbird can sing like the crying of a dove. And I can't tell my daughters all the things that I'm scared of. But I am not afraid of that bright glory up above. Dying's just another way to leave the ones you. Stayed in Eden. Her husband's got some land. An agent for the county thinks that they might make a stand. A hard life of working with nothing much to show. A long life leaving with nowhere to go. And the mockingbird can sing like the crying of a dove. I can't tell my daughters all the things that I'm scared of. But I am not afraid of that bright glory up above. Dying's just another way. Thank you.
C'est toujours un régal, c'est le cas de le dire, d'écouter les Carolina Chocolate Drops. Et nous venons de le faire en compagnie de Monsieur Daniel Amaria, responsable du site en ce qui concerne le musée du chocolat de Colmar. Nous allons immédiatement poursuivre notre passionnante conversation, puisque j'aimerais également évoquer l'aspect ludique de ce musée qui est vraiment dédié à tous les publics. Hein. N'hésitez surtout pas à y venir avec vos enfants qui vont passer un moment extraordinaire.
Oui, tout à fait. Donc, comme j'expliquais, la thématique du chocolat, elle parle à tout le monde, aux plus petits comme aux plus grands. Donc, pour les petits, en l'occurrence, pour les enfants, on a des bornes pédagogiques qui expliquent, à l'aide de l'audio guide, en scannant, qui expliquent un petit peu déjà les différentes parties du musée de façon très synthétique. Et en plus, avec des bornes de jeu où ils peuvent jouer sur les écrans, parce que bon, maintenant, on sait que les enfants et les écrans, ils adorent ça. Ils peuvent apprendre plein de choses, en fait, avec ces bornes pédagogiques. Et il y a même des expériences en fait à faire où, par exemple, il y a un chocoscanner où les gens, notamment les enfants, peuvent se mettre devant un grand écran et reprendre nos mouvements. On a un squelette en face qui nous explique en quoi le chocolat, pourquoi le chocolat est bon pour les os, pourquoi est-ce qu'il est bon ensuite pour la peau. Donc on voit notre corps bouger en même temps que l'écran le fait. Donc on apprend plein de choses et eux notamment de façon très interactive, parce que c'est un petit peu la perche en fait, qui retient les enfants. Et du coup, pour tout public, parce que également pour les personnes qui s'intéressent plus aux pièces plus de collection, on a des chocolatières de Renaissance, on a des tasses à chocolat de la Belle Époque, on a des chocolatières préhispaniques également. Donc c'est pour le coup une thématique universelle presque, et des pièces de collection qui vont toucher tout le monde. On a presque 500 pièces de collection, plus une trentaine d'animations. Donc là, pour le coup, tout le monde sera touché par ça.
Et parmi les pièces de collection, est-ce qu'il y en a qui sont absolument inédites ?
On a une pièce de collection, comme je vous l'ai expliqué, qui date de presque moins 3000. Notre collectionneur a trouvé au nord de l'Amérique du Sud une pièce de collection, en tout cas un espèce de vase, en fait, un vase qui contient de la théobromine. La théobromine, vous savez, c'est le principe actif qui stimule dans le chocolat, un peu comme la caféine. Donc de la théobromine sur ce vase, sur ce récipient, et ce serait donc pour le coup, et qui a été daté en fait de moins 3000, ce serait pour le coup la preuve, pour le moins, d'utilisation de cacao, peut-être pour des vertus thérapeutiques, mais peut-être pour en faire un nez, et notamment une boisson. Donc ça, c'est la plus vieille pièce du musée qui date de moins 3000 avant Jésus-Christ, donc qui a 5000 ans, et pour la raison pour laquelle on parle au Choco Story de Colmar, de 5000 ans d'histoire du chocolat.
Alors il y a des pièces absolument extraordinaire, hein. Notamment on parlait de la Statue de la Liberté reproduite en chocolat. Il y en a d'autres comme ça, hein, je crois des robes notamment, vous pourrez voir ça dans le Cabaret Chaud, hein, si ma mémoire
tout
est bonne.
Qui a
réalisé ces pièces? Alors, est-ce que ce sont des chocolatiers locaux?
Alors il y a des chocolatiers locaux, hein, qu'on met dans le cabaret. Vous allez voir, il y a un présentateur, un showman, hein, qui explique avec sa voix tout à fait à lui, qui explique qui sont les créateurs qui sont locaux en fait pour les robes en chocolat que l'on a, des sculptures en chocolat, mais toujours liées, voilà, dans ce cabaret alsacien, toujours liées à la région. La statue de Bartholdi, c'est Jean-Luc de Cluseau qui a fait différentes sculptures, notamment dans le musée à Paris, et qui a fait voilà une sculpture de l'œuvre de Bartholdi, colmarien, de la Statue de la Liberté sur 250 kilos de chocolat, uniquement du chocolat, en plein centre de la salle des cabarets. Et puis on a d'autres statues, on a par exemple Vauban, hein, qui a fait pas mal d'ouvrages en Alsace, et qui a été également, dont on a fait le portrait en chocolat avec Jean-Luc de Cluseau. Donc oui, là c'est effectivement, vous allez voir, ça surprend beaucoup à quel point le chocolat est une matière qu'on peut sculpter, qu'on peut travailler, parce que ça devient très très dur une fois que ça refroidit. Et les gens sont également très surpris de voir que des statues en chocolat tiennent
là, et ne tombent pas. C'est la question que j'allais vous poser sur la conservation en fait, comment faire?
Alors un chocolat dans l'idéal, hein, ça se conserve entre 16 et 20 degrés, donc on fait en sorte évidemment que notre musée fasse pas trop chaud, même si en ce moment il fait un peu froid dans la région. Donc voilà, c'est entre 16 et 20 degrés, il faut pas que ça dépasse les 25 degrés, parce qu'effectivement là ça peut devenir critique avec nos sculptures. Donc c'est le cas dans nos salles. Donc le chocolat est une matière qui se travaille. Une fois qu'elle est dure, elle est pas aussi dure que la pierre, mais on peut la sculpter tout à fait comme de la pierre, comme du marbre, ou presque en tout cas. Voilà, c'est une matière qui se travaille. Tout ça, on l'explique au musée.
Alors, on parle de chocolat. Alors, évidemment, on peut en déguster du très bon dans le cadre même du musée. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différents niveaux de qualité hein, en ce qui concerne cet ingrédient et les produits qui sont constitués avec. Est-ce que là aussi, vous donnez une mission, une forme de sensibilisation vis-à-vis des gens afin qu'ils consomment mieux ?
Alors, nous, même pour nous, le chocolat blanc, c'est du chocolat. C'est-à-dire que les personnes qui aiment le chocolat blanc, on explique ce que c'est que le chocolat blanc. Parce que les personnes disent, ah ben non, ben, c'est pas du chocolat. Le chocolat blanc, c'est fait à base de beurre de cacao. Le beurre de cacao est lui-même tiré de la fève de cacao. Donc, on n'oriente pas, en fait, les gens à déguster tel ou tel chocolat. On sensibilise sur le produit d'origine, la fève de cacao. Effectivement, on sensibilise sur le fait que le chocolat est fait avec du beurre de cacao, donc la matière grasse tirée donc de la fève, qui donne cette couleur en fait un peu jaunâtre au chocolat blanc. Il se trouve que les Français sont des consommateurs plutôt avisés d'eux-mêmes, hein, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. C'est-à-dire que contrairement à d'autres pays européens, le Français consomme plutôt du chocolat noir. Donc à hauteur de 7 kilos par jour, pas de chocolat noir uniquement, mais en tout cas ils consomment plus de chocolat noir que les autres, nos voisins européens. Mais voilà, on sensibilise sur le fait que le chocolat est tiré de la fève de cacao et que pour les différents ingrédients de chocolat, il y a la pâte de cacao, la matière grasse qu'est le beurre de cacao, du sucre et éventuellement du lait en poudre. On explique aux gens ce qu'est le chocolat, comment est-ce qu'il est fabriqué et les gens d'eux-mêmes se rendent compte après ce qui est bon. Il y a des personnes qui peuvent par exemple aimer le chocolat blanc et se dire à la fin, ah oui, il n'y a quand même que du beurre de cacao, du sucre, etc. Et en dégustant, parce qu'on fait déguster au musée du chocolat de Colmar tout au long du parcours du chocolat, en dégustant du chocolat noir, parce que j'ai eu l'expérience hein, se rendre compte qu'ils ont le goût un peu de la fève et leur palais se sensibilise par rapport à ça, se disent, ah voilà, on a appris un petit peu comme on peut avec un atelier d'œnologie apprendre à déguster du vin, on peut apprendre à déguster du chocolat via les explications du procédé de fabrication en fait.
Et quels sont les premiers retours des gens, des premiers spectateurs ? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ont été surprises ?
Ah, ils ont été bluffés.
Mais est-ce que vous savez pas que c'était ça le chocolat ?
Bluffés. Alors bluffés par deux choses. Hein. Déjà par la thématique du chocolat. Enfin, en tout cas, l'histoire du chocolat. Les gens, comme j'expliquais, connaissent le produit. C'est un des produits les plus populaires en termes de gastronomie. Mais ils ne connaissaient pas l'histoire, ils ne savaient pas que ça remontait aussi loin, ils ne savaient pas que c'était consommé à Versailles, ils ne savaient pas que c'était une boisson, ils ne savaient pas que c'était une boisson épicée à l'origine, parce que c'était très épicé avec du piment chez les Aztèques, même arrivé en France. Donc ils ne connaissaient pas, il y avait une méconnaissance en fait de l'histoire du chocolat. Et ils ont été bluffés surtout par le musée et le côté interactif du musée, l'immersion que l'on a. Les gens ne s'attendaient pas à rentrer comme ça dans une plantation en Amérique centrale, ils ne s'attendaient pas à rentrer dans un temple maya, aztèque, ils ne s'attendaient pas à découvrir des machines industrielles comme ça, ils ne s'attendaient pas à tomber sur des chocolatières de l'Ancien Régime. Donc les enfants ne s'attendaient pas à trouver des animations pédagogique interactive. Donc là, pour le coup, on a eu pour l'instant que des bons retours et de tout public, les enfants comme les adultes, comme les seniors, comme tout le monde.
Je suis sûr que ce musée du chocolat va devenir vraiment l'un des rendez-vous incontournables, non seulement pour les touristes de passage, mais également pour tous les habitants de notre ville, hein, parce que vraiment, il y a moyen d'y passer des heures et de passer d'excellents moments, surtout en famille, j'insiste là-dessus. Je rappelle l'adresse 12 place de la cathédrale à Colmar. Vous ne regretterez absolument pas votre investissement qui pourtant n'est pas excessif, hein, puisqu'il faut compter 10 euros par adulte et 7 euros pour les enfants de 6 à 11 ans, c'est gratuit pour les moins de 6 ans.
Si je peux me permettre, on fait un tarif colmarien également à 5 euros pour les résidents colmariens.
Parfait. Plus d'infos sur le www.choco-story-colmar.fr. Merci beaucoup Daniel pour votre venue dans le Minimag. On souhaite vraiment une très très longue vie à ce splendide musée et j'espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver très 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 bientôt autour d'un atelier ou d'une bonne dégustation de chocolat.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci, c'était Daniel. Le Minimag sur RDL. Au revoir.